Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC. J'aime courir.
Gilbert Bribois.
Toi qui aimes transpirer en été comme en hiver, bienvenue dans le podcast qui va te donner envie de courir encore plus loin et encore plus souvent, on l'espère en tout cas avec Mehdi Bala. Salut Mehdi.
Salut Gilbert, bonjour à toutes et à tous, et l'hiver est arrivé hein.
Ouais, ah, ça change ça hein, quand on va courir tout de suite, le froid.
C'est clair, ça picote un peu.
Alors j'aime courir, le podcast running d'RMC avec la Fédération Française d'Athlée. Vous le savez, toutes les semaines on vous raconte des histoires de running étonnantes avec des invités passionnants, des champions qui vous donnent leurs secrets d'entraînement. Et si vous êtes actuellement en train de courir comme d'habitude, eh bien on va vous accompagner pendant près d'une demi-heure. Et effectivement, Mehdi, en ce moment, il fait froid, il peut pleuvoir, il peut y avoir un plafond bas. Ben, on va vous emmener dans un endroit où il fait un petit peu plus chaud, vous allez voir. On va vous faire voyager tout de suite.
RMC, j'aime courir.
Oui, parce que nous recevons aujourd'hui Cyril Gauthier. Cyril, bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Runner et organisateur du Half Marathon des Sables du Pérou.
Eh ben c'est exactement ça, et comme tu le disais tout à l'heure, quand on court, on a besoin un peu de soleil parfois, hein, quand on court sous la pluie. Donc là, c'est exactement le but de nos événements, c'est te donner de l'envie, te donner aussi de la chaleur et te donner un objectif pour pouvoir faire tes entraînements et puis après être prêt pour justement le Half Marathon des Sables, qu'on appelle communément aussi le HMDS.
Alors, on va en parler de cet événement, on va essayer de vous donner envie d'y aller, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'épreuves qui se développent à l'international, et puis parfois des épreuves étonnantes et très sympas à vivre comme la tienne. Mais tu es aussi coureur, Cyril, alors pourquoi tu cours ?
Alors, pourquoi je cours ? Alors, au tout début, pour être très sincère, je me suis mis à la course uniquement pour maigrir. J'avais absolument pas de passé de sportif. Et contre toute attente, la chose la plus facile que j'ai trouvé à faire, c'est mettre à courir. Et il me fallait quelques objectifs. Je me suis rendu compte qu'à la différence de Mehdi, j'allais pas monter sur les stades pour que les télés me suivent. Et j'avais bien du mal à tenir le rythme.
Si je peux me permettre, moi, j'ai maigri sans courir. J'arrivais absolument pas à maigrir. Alors, le gros problème qu'on a, justement, quand on essaie de perdre du poids en courant, ouais, c'est qu'en général on mange plus parce qu'on se dit oh, j'ai fait du sport, je me ouais, dédouane, j'ai le droit.
Alors peut-être,
et on grossit.
Peut-être parce que tu tapais très fort dans ton corps. Moi je ouais, te garantis que l'avantage que ça m'a procuré immédiatement, c'est que 1, j'ai arrêté de fumer, 2, j'ai perdu 12 kilos.
Super.
Et surtout derrière, je me suis mis à faire le chemin classique. Et c'est vraiment dans la genèse même de nos événements. J'ai fait un semi-marathon, puis un deuxième, et puis je me suis préparé pour un marathon. Je me suis rendu compte que physiologiquement, j'irais jamais en moins de 3 heures, même si j'ai essayé de fractionner. Tout ça me faisait souffrir, mais j'avais retrouvé en tout cas un équilibre physique et puis une envie, une nouvelle envie, et j'ai découvert un nouveau monde. Et puis, je me suis dit, après avoir fait un marathon, deux, puis alors tu sais, classiquement, aller découvrir New York en courant, aller découvrir Berlin, tout ça était bien, mais quand je regardais mon chrono, je ne me sentais pas non plus une star. Et puis, très rapidement, la route m'a un peu lassé, un peu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, c'est là où je me suis intéressé aux trails et aux ultra-distances, en me disant, tiens, c'est sympa, parce que quand je regarde le rythme des gars, ils ne sont plus à 4,30 du kill, et donc on peut vivre différemment. Et puis j'ai commencé à tester, et là, ça m'a juste passionné. Et j'ai découvert, la première course que j'ai faite est la Diagonale des Fous, où, évidemment, j'ai fait...
Pas des quatre... moindres.
Non, mais attends, mais attention, hein, il faut pas confondre, je l'ai fait, mais dans 70% pendant 70% du trajet, je marchais. Mais j'ai trouvé ça très excitant de ne pas être accro à son chrono et systématiquement à se dire, ouais, mais là, il faut que je pousse et ainsi de suite. Et puis, je me suis ouvert et je me suis intéressé à tous ces événements dans le monde. Et je me suis dit, waouh, on peut découvrir des pays, des endroits fantastiques. Et puis après, j'ai découvert cette fantastique machine qui était l'UTMB. Et puis, je me suis intéressé en 2009...
L'Ultra Trail du Mont-Blanc. Hein.
Pardon, excusez-moi, oui, les acronymes, il faut qu'on fasse attention. L'Ultra Trail du Mont-Blanc. Et puis après, je me suis intéressé au fameux Marathon des Sables. Tout simplement parce que je suis allé dans une boutique à Paris où j'ai vu une affiche avec les frères Hansal, et je me suis dit, waouh, ça doit être extra. Et quand tu n'es pas un bon coureur, ça ne te fait pas très peur de perdre du temps avec un sac à dos et du sable. Tu vois,
ouais.
Donc j'étais pas là-bas pour.
Ah bon, le marathon des sables, on va en parler aussi avec le même. Là, c'est la version Half en l'occurrence.
Oui.
Enfin, il y a de la distance.
Alors oui.
C'est pas de, comment dirais-je, forcément donné à tout le monde et atteignable par tout le monde. Ça peut faire un peu peur.
Alors, ça, effectivement, alors c'est ça aussi qui pique. Hein, c'est ce qui fait un peu peur, excite. Tu vois, c'est pour ça que dans Disney, on fait mourir Bambi. Hein, tu vois, je veux dire, t'es un peu triste, t'as un peu peur, et puis tu vas voir ce qu'il y a derrière. Moi, le marathon des sables, je pensais découvrir une course. Et puis, j'ai découvert un événement et j'ai été choqué parce qu'il y avait la partie course qui me faisait très, très peur. Je me suis rendu compte que déjà, quand on parle de sable, 70% du trajet, le sable est damé. Donc, tu n'as pas dans la folie d'une plage où tu vas t'amuser à faire 500 mètres et où tu vas sentir tes mollets et tu vas souffrir. Et puis, j'ai découvert ce que c'était que la vie du bivouac, où quand tu rentres, tu peux parler à tes potes uniquement de course à pied. Et je me suis rendu compte d'une chose incroyable, c'est que cette course, enfin cet événement, ça recrée de la mixité sociale. C'est-à-dire que, étonnamment, tu parlais à ton voisin, alors il pouvait être charcutier, il pouvait être chef d'entreprise, il pouvait être magasinier, mais on se foutait de nos métiers les uns les autres, on parlait juste course à pied. Mais alors c'était le dîner de con, on ne parlait que de ça, que de l'étape du lendemain. T'as les gars qui sont capables de lire un roadbook, une carte qui te parle de D+, de D-, tu rentres dans un monde et ces personnes, tu t'y attaches parce qu'il y a une chose fantastique, c'est que t'as été un peu amorti par le soleil, par la fatigue, t'as sécrété des endorphines, donc t'es sous substance. Et là, tu te livres...
Sous substance naturelle.
Naturelle. Ah non, mais c'est une... Nous, nos événements sont des événements où tu te drogues légalement et où ça fait du bien.
C'est intéressant. C'est magnifique. Ah bah, très belle métaphore.
Donc, j'ai fait cette course et que j'ai trouvé fantastique. Et puis après, je m'y suis intéressé. Je suis devenu ami avec son fondateur, Patrick Boer, et sa cofondatrice, Marie Boer. Et puis, je me suis mis à travailler avec l'organisation pour mieux comprendre ce que c'était que cette course et comment on faisait courir des centaines de coureurs dans le désert en toute sécurité et comment on arrivait à cela. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que pour aller dans le désert, tu le disais tout à l'heure, ça fait quand même très peur. Tu te dis, attends, je vais me prendre 40 degrés, je suis en semi-autonomie alimentaire, donc j'ai un sac à dos dans lequel j'ai mon sac de couchage, tous mes vêtements, mon alimentation lyophilisée, c'est 8 kilos dans le dos, on ne donne que de l'eau. Et tout ça, ça crée de la crainte, et donc ce n'est pas toujours facile à aborder. D'où l'idée qui a germé très vite de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un palier d'accès avec une distance moindre, des 250 repassés à 125 km, et essayer de corriger tout ce qui est finalement le plus affolant pour un coureur néophyte.
Oui, alors c'est vrai. Alors, quand on parle de marathon des sables, il y a plusieurs choses qui font peur. L'environnement, donc le désert, la surface de course, on va y revenir, Mélie, et puis la distance. Parce qu'effectivement, se dire je vais m'envoyer 250 bornes sous le cagnard dans le sable, j'ai fouet de Barjo.
Bah, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un marathon ?
Alors, ça, c'est le nom de baptême a été donné par les créateurs au tout début. Avec à l'époque, le marathon, il y a 35 ans, était quand même beaucoup moins vulgarisé. Et puis, Patrick et Marie ont eu l'idée de l'appeler marathon des sables parce qu'au début, les étapes.
Oui, ça aurait pu être l'aventure des sables ou autre chose.
Exactement. Ouais. Et puis, c'est resté et puis c'est devenu la marque de fabrique marathon. Mais c'est vrai que souvent, les gens, quand ils ne connaissent pas, ils se disent, bon, alors, vous passez une semaine dans le désert pour faire un marathon, vous êtes quand même très lent. Et moi, si tu veux, la première fois que je suis arrivé au Pérou pour monter l'événement au Pérou, le Half Marathon, le ministre m'a regardé en me disant, attends, Half Marathon, 21 km, vous voulez venir une semaine dans le désert ? Waouh, vous n'êtes quand même pas des mecs très performants. Donc, c'est vrai que parfois, en communication, ce n'est pas le mot idéal. Mais maintenant, il est connu dans le monde entier. Exactement. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que nous, avec la logique Marathon des Sables et Half Marathon des Sables, sur l'exemple, on a vraiment de Marathon, Half Marathon ou Ironman, Half Ironman. Ça parle aux gens. Ils se disent, OK, c'est peut-être un accès plus.
Alors, donc, le Marathon des Sables est devenu une marque.
Oui, tout à fait.
À part entière. Et donc, tu as développé la version Half au Pérou. Alors, pourquoi au Pérou ?
Alors, on l'a développé en fait actuellement dans deux pays, aux Canaries, à Fuerteventura, ça vient d'avoir lieu fin septembre. Et après, on l'a développé au Pérou parce qu'en fait, on s'est tout simplement intéressé au plus beau désert que l'on pouvait trouver. Et quand on a eu la surprise, en passant par le Pérou, de découvrir le désert d'Ica et les derniers qui étaient rentrés dans ce désert, à la différence d'énormément de déserts dans le monde où il y a des nomades, il y a une vie, il n'y avait aucune vie dans le désert d'Ica. Les derniers étaient les Incas et qui remontaient le poisson à Cusco au pied du Machu Picchu. Et là, j'ai découvert un truc fantastique, des dunes de 300, 400, 500 mètres de haut qui se jettent dans l'océan. Parce qu'à contrario de ce que l'on pense, le Half Marathon des Sables au Pérou, ça se passe à une altitude zéro, au niveau de l'océan. Donc, tu n'as pas des problèmes. Parce qu'on associe souvent Pérou, Cordillère des Andes. Et les gens disent, waouh, je vais aller courir à 3000, c'est compliqué. Du tout. On est à zéro. Et là, tu as une faune incroyable. C'est-à-dire que tu es capable de courir dans les dunes et tu vas voir des lions de mer devant toi, c'est un spectacle qui te...
Donc, ouais, quoi, dans les dunes et au bord de la mer, c'est incroyable.
C'est quoi ton... C'est quand ton histoire, là? Parce que tu me alors, me faire rêver, on va y aller,
Gilles. Ah non, non, mais, aller, non, mais là, là, il faut venir, parce que c'est vrai que t'as un choc. C'est fin novembre, début décembre, d'accord? Et ce qui est super important pour un coureur, c'est que si tu veux, quand tu es au Pérou... C'est le désert mythique, c'est le désert que tu vois en Mauritanie, c'est ces dunes gigantesques. Et sur chaque jour, à chaque étape, le désert change. Tu as du sable jaune, tu as du sable noir, et tu as du dénivelé. Alors on ne peut pas monter sur ces dunes, parce que par 40 degrés avec du sable, alors là, qui serait mou, si tu montes à 800 mètres, tu arrives au-dessus, tu es juste carbonisé. Donc on va étudier un itinéraire entre les dunes qui va te faire passer de l'océan aux dunes. Tu vas découvrir des endroits ventés, d'autres plus calmes. Et quand tu reviens sur le bivouac central, parce que tous les half-marathons des sables ont ça en commun, il y a un bivouac central et tu fais des étapes autour du bivouac. Alors, le désert étant immense, tu sais absolument plus où tu es, mais tu reviens systématiquement à ton bivouac central.
Alors, pour ceux qui nous écoutent là en courant et qui s'y voient déjà, ou qui s'y verraient éventuellement s'ils ont plus d'infos, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails, étape par étape?
Alors, étape par étape, si tu veux, quand tu... Là, par exemple, le Pérou 2019, tu vas arriver le dimanche, tu vas avoir un transfert pour aller dans le désert d'Ica, d'accord? Donc, tu vas voyager la nuit. Alors ça, c'est le côté un peu contrainte, hein, faut le dire. Hein. Il y a de l'avion et après, il y a du bus.
Oui, c'est plus de 10 heures d'avion hein, pour aller au Pérou.
C'est 10 heures d'avion et après, tu as 6 à 7 heures de bus. Alors, par contre, les bus... Attention, hein, il va falloir être...
Il m'a vu souffler.
C'est du bus couchette. Donc, tu es vraiment dans business class et tu peux vraiment te reposer.
Ah, mais c'est du bus couchette au Pérou.
Au Pérou. Voilà. Mais
c'est attention, parce qu'en Amérique du Sud, le déplacement en bus est tout à fait démocratisé. Et effectivement, comme tu dis, il y a
des bus sublimes.
C'est une sorte de classe business où tu peux t'allonger.
Et attention, tu n'as pas des animaux dans le bus. Quand je te dis, ces bus-là, j'en ai jamais vu en Europe d'aussi beaux. Parce que c'est vrai que chez eux, le bus, tu vas en Argentine depuis le Pérou en bus. Donc, ils sont habitués à avoir ce transport de qualité. Et notre partenaire, Siva, nous met à disposition des bus sublimissimes. Donc, tu arrives au pied du désert et là, tu te dis, waouh, ça y est, je vais me mettre à courir. Non, pas du tout. On te prépare déjà une première farce. C'est que là, tu as des camions 6-6 de l'armée qui viennent te chercher parce que le gouvernement nous met à disposition les forces spéciales péruviennes. Et là, pour ceux qui n'ont pas fait l'armée, et beaucoup de coureurs, et alors les femmes évidemment ne l'ont pas faite non plus, se voient monter pour la première fois de leur vie dans des camions 6-6. Et là, tu rentres dans le désert parce que tu ne peux pas y rentrer autrement qu'avec des véhicules tout-terrain. Et tu rejoins le bivouac qui est positionné devant l'océan. Et c'est un des plus beaux spots que tu puisses imaginer. Et puis là, tu découvres finalement des tentes. Alors, on a fait une différence parce que sur le marathon des sables, tu as des tentes berbères où il y a 8 coureurs par tente. Okay, on s'est rendu compte que beaucoup de gens, au début, ça leur faisait très peur en se disant « Attends, j'arrive, je ne connais pas mon voisin, s'il se met à ronfler, et c'est de la tente berbère. » Donc, c'était un frein à l'accessibilité. Donc, on a mis des tentes individuelles, des tentes deux personnes dans lesquelles tu es seul. Donc, tu peux avoir une intimité. Ces tentes sont en cercle et donc toutes les têtes qui sortent des tentes sont devant le feu central pour que tu puisses communiquer avec tes nouveaux amis. D'accord ? Là, donc, tu as un contrôle technique parce qu'on a des médecins qui sont là. On fait venir sur le Pérou un semi-remorque complet, un conteneur de matériel médical parce que on accorde une importance capitale à la sécurité. Quand on te met dans des conditions extrêmes, ça, tout le monde peut le faire. Le faire dans des conditions de sécurité maximum avec un temps d'intervention qui est en dessous de 6 minutes, c'est stratégique. Donc, on emmène un tas de matériel qui ne sert absolument à rien, sauf au cas où. Et la plupart des soins médicaux que l'on dispense, ce sont des soins de pied. Parce que la moindre ampoule dans le désert peut vite basculer dans quelque chose de très désagréable. Et le but est véritablement de dire au coureur, vous n'êtes pas là pour souffrir. Si vous avez décidé de vous faire mal en courant le plus vite possible, c'est votre problème. Mais on ne peut pas vous laisser souffrir de petits maux. Donc on a là 40 médecins et infirmiers qui sont là tous les soirs pour s'occuper de toi et te chouchouter. Et là, on a un partenaire qui d'ailleurs travaille sur l'UTMB, sur les Ironman, qui est Doc Ever. Et ce sont des gens, des urgentistes qui ne sont que dans la gestion du coureur d'ultra. Ils connaissent parfaitement toutes les pathologies, les problèmes de température et tout ce qui va avec. Donc, la contrôle technique, on vérifie ton certificat médical, si tu vas bien et ainsi de suite. On te donne les précautions d'usage, comment aborder la première étape. La première étape, premier jour, une trentaine de kilomètres. Parfois, c'est 28, parfois c'est 32, en fonction de l'itinéraire qui a été décidé. Deuxième jour, c'est the big one, c'est la grande étape. C'est l'étape qui fait peur à tout le monde parce qu'elle fait en moyenne 60 kilomètres. Donc, au rythme de déplacement avec un sac à dos et dans le sable, ça va prendre une journée, une partie de la nuit. Donc, on part très tôt le matin, de nuit. Donc, tu as le bonheur dans le désert de voir une des choses les plus belles qui est le lever de soleil sur les dunes. Là, tu oublies toutes tes douleurs. Tu vas courir ou marcher dans la journée. Mm-hmm. Et puis, tu vas avoir droit aussi au coucher de soleil. Alors, avec la chute de température...
Alors, sur cette grosse étape, il y a des délais à respecter ?
Oui. Alors, on a des barrières horaires qui sont vraiment très larges. Le but n'est pas d'éliminer le concurrent. À la différence d'événements où ils ont 50% d'abandon, le but, c'est qu'on ne dépasse pas les 5 à 10% d'abandon. Et que les abandons, en tout cas, ne se fassent pas à cause des barrières horaires, mais d'un problème physique où il ne faut pas que tu continues parce que tu vas te faire mal. Donc, on a un taux d'abandon qui est très faible. Il ne faut pas oublier une chose qui est très, très, très importante, c'est qu'on s'est rendu compte que 75% des gens qui étaient sur nos événements n'étaient pas des pratiquants de trail, mais étaient des gens qui avaient fait quelques semi-marathons et quelques marathons, donc des gens qui viennent de la route, donc qui n'ont pas une approche du trail, de la nature, du dénivelé. Donc, c'est des gens qu'on amène à découvrir de nouvelles sensations. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce coureur, il faut que tu l'accompagnes pour qu'il ait un vrai voyage initiatique et qu'il puisse savourer à la fois le milieu dans lequel il est et s'adapter pour sortir des 40 km dont il pensait que c'était la limite qu'il pouvait atteindre. Et là, il va faire 60 km, il va faire les 1000 de dénivelé positif, il va avoir un sac à dos de 6 à 7 kg. Tous les 10 km, la seule chose qu'on va lui donner, c'est de l'eau. Donc, on ne manque jamais d'eau dans le désert, puisqu'on s'organise toujours pour que les coureurs soient parfaitement alimentés en eau. Et ils vont apprendre finalement à se déplacer différemment et à gérer la course, plus qu'avec leur physique, mais aussi avec leur cerveau, en se disant, voilà, j'ai couru 5 km, je vais marcher 2, je vais repartir, ou je ne fais que marcher, ou je vais aller chercher de l'aide avec d'autres coureurs qui sont un peu lents, avec lesquels je vais discuter, et tu découvres finalement que tu ne fais pas qu'une course. Tu partages, tu t'aides, des gens t'apportent de l'aide, et tu vas vivre une expérience étonnante. Et quand tu es au cœur d'un désert qui te... Alors là, on est vraiment dans le mythe de Théodore Monod, de Laurence d'Arabie, parce que tu as ces dunes gigantesques, ces dunes qui chantent avec le vent. Tu es au milieu de tout ça, et tu es dans un rêve, et que tu sois au Pérou d'ailleurs, ou à Fuerteventura, qui est un sublime désert qui est méconnu, île sur laquelle la plupart des gens faisaient du kitesurfing ou du windsurfing, ils découvrent qu'il y a un désert et tu as exactement les mêmes sensations. Et puis à Fuerteventura, de la même façon, tu as cette mer qui est à tes pieds, tu la découvres, elle s'échappe, tu la retrouves. Donc, tu es véritablement dans un événement qui psychologiquement te transporte, te donne une joie énorme parce que tu partages avec les autres. Donc, tu n'es pas dans la course seule. Ou souvent, sur des événements, quand tu fais des 160 km, tu es seul avec toi-même et puis tu essayes de passer tous les checkpoints pour être finisher. Une fois que tu as la médaille, tu as mal partout et c'est fini. Là, c'est très différent. Tu as mal partout le premier jour, mais quand tu arrives au bivouac, tes potes t'expliquent ce que tu aurais pu faire pour avoir moins mal, comment tu peux mieux te sentir pour le lendemain.
Alors, la troisième étape ?
Alors, après la grande étape, il y a un jour de repos. Jour où les gens qui sont arrivés tard dans la nuit ont besoin de faire la grasse matinée. Alors, soyons honnêtes, la grasse matinée dans une tente.
Oui, quand il fait 40 degrés à 10h du matin, t'es vite réveillé.
Non, t'es vite réveillé. Et puis, il n'y a pas de room service qui t'explique que t'as un petit déjeuner calorique pour t'aider. Hein, parce que c'est toi qui vas faire te réchauffer tes aliments lyophilisés. Mais par contre, cette journée, elle va te permettre, un, de soigner tes ampoules si tu en as, de te détendre. Donc, on organise des séances de yoga, de stretching. Et puis, ça permet aussi aux gens de communiquer énormément. Parce que le grand besoin, en fait, quand je parlais au tout début de la mixité sociale, ce qui est fantastique, c'est à côté de toi, tu as un coureur élite qui a fait des records absolus, qui fait le marathon en 2,15 ou en 2,20. Et puis, de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a fait son dernier marathon en 5h30. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que tu rencontres des personnes et tu t'ouvres différemment. Donc, cette journée, elle est passée au repos, admirer le paysage qui s'ouvre autour de toi. Et puis, ben, ces discussions et être prêt pour la dernière étape qui, elle, va faire 25 à 30 km.
Ah, donc une broutille fois qu'on a fait les deux premiers jours. Quoi.
Ben, si tu veux, c'est ça qui est amusant. C'est quand tu as passé la grande étape, tu sais que la dernière, quoi qu'il se passe, tu sauras la gérer. Et c'est là où les gens prennent... Alors la dernière étape, c'est qu'ils ont plusieurs heures pour savourer parce qu'ils ont dépassé leurs limites, chacun avait à leur façon. Hein, puisque n'oublions pas que l'événement est destiné à des gens qui se lassent un peu de la course sur route, qui continuent à en faire en parallèle en entraînement, mais qui vont, là, découvrir la nature, une approche complètement différente.
Quand on parle de semi-autonomie, alors, donc on a des points d'eau donc, tout au long du parcours, mais alors qu'est-ce qu'on mange et comment on mange ?
Alors,
chacun prend dans son petit sac à dos ce qu'il a envie ?
Alors c'est là où la course commence bien avant la date de l'événement, c'est-à-dire que d'abord, tu vas comprendre ce que c'est que les lyophilisés. Alors, tu en entends parler à la télé quand tu vois les grands marins, mais généralement, tu ne te fais pas un bœuf stroganoff en lyophilisé pour le plaisir. Donc là, tu vas commander tes plats quelques mois avant, Alors, sur Internet, tu en trouves un peu partout. Tu vas goûter. Tu vas voir que finalement, le riz, si tu le cuis mal, c'est assez désagréable. Que les purées, c'est plus pratique. Il faut que ça soit calorique. Donc, tu n'as pas que l'événement. Tu as l'avant, où tu dois te préparer. Le truc fantastique, c'est où tu deviens complètement neurasthénique, c'est que tu apprends à remplir ton sac au mieux. Ton petit sac à dos avec toute ta vie. Ta vie est dans ton sac. Hein. Tu as ton sac de couchage, tes aliments, tous tes petits produits. Au début, quand tu prépares tes affaires, étonnamment, ça rentre pas dans le sac.
Mais dis, je suis pas sûr que tu puisses amener ton portable. Je pense pas qu'il y ait du réseau.
Bah, ah justement.
Non. Mais dis, il a une petite addiction au message. Là, c'est foutu, Mehdi.
Non, absolument pas. J'étais simplement en train de regarder tous les petits conseils que je pouvais donner sur le sable. Non, tout simplement.
Non. Mais la chose qui est stratégique, si tu veux, c'est aussi ça. C'est quand tu te rends compte que tu es coupé du monde, alors tu te rends compte de ton addiction, qui est sans arrêt de vouloir mettre un WhatsApp, une story, Insta, tout, suivre tout le monde dans lequel on est rentré. Et t'en couper, quand t'es seul, tu te sens véritablement esselé. Mais quand tous les gens autour de toi sont dans la même situation, ça devient très intéressant. Parce que prenons l'exemple d'un moment où tu vas prendre l'avion. Avant, dans les files d'attente, les gens discutaient entre eux. Aujourd'hui, personne ne discute avec personne. Tout le monde est sur son téléphone. Là, t'es dans le désert, tu peux pas te réfugier dans ton téléphone pour parler à tes potes.
En fait, je résume là. C'est un truc pour cadre supérieur un peu stressé qui a envie de se reconnecter avec la nature.
Non, parce que, alors, si tu veux, aujourd'hui, il y a bien au-delà des cadres supérieurs, tous les gens sont complètement addicts de leur téléphone. Je veux dire, du magasinier au chef d'entreprise, ils sont tous sur leur téléphone pour des raisons différentes, mais ça te déconnecte et ça te permet de t'ouvrir nouvellement. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, et moi j'en suis la preuve, c'est que les potes que je me suis fait en 2009 dans ma tente, ce sont toujours, sur les 8 personnes, il y en a toujours 3 de pays différents avec lesquels on est lié, on se voit quasiment tous les mois. Et si tu veux, cette mixité sociale, elle est juste plus offerte parce que vous êtes dans votre job, vous connaissez des gens qui techniquement sont autour de vous et tu vas assez difficilement côtoyer d'autres personnes. Et ça, on l'a dans nos événements.
On va parler conseils parce que courir sur ce type de sol, c'est pas évident. Il faut savoir le faire, apprendre à le faire. Mais une question quand même cruciale, combien ça coûte ?
Alors, aujourd'hui, hors transport, hein, c'est-à-dire que quand tu vas au Pérou, en fonction du moment où tu vas réserver ton billet, tu vas le payer entre 500 et 1000 euros. L'inscription, si tu es en early booking, enfin tu t'inscris avant, ça va être entre 1200 et 1600 euros.
D'accord ? Tout compris.
Tout compris. Hein. Et quand je dis.
Et après, il faut rajouter donc le billet d'avion.
Tu rajoutes à ces 1200, 1500, tu rajoutes ton billet d'avion, et évidemment, si tu ne l'as pas, ton équipement spécifique. C'est-à-dire qu'il te faut un sac à dos qui est prévu pour la course dans le désert, avec généralement une partie ventrale, une partie dorsale. Il te faut quand même un sac de couchage ultra léger. Hein, si tu prends le sac traditionnel à la grand-mère, ça ne le fait pas. Et donc ton équipement, il faut que tu l'étudies. Mais l'équipement n'est pas assez hors de prix. Le coût du lyophilisé, c'est une centaine d'euros. Donc si tu veux, ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est de te préparer physiquement pour ce type d'événement. C'est-à-dire que beaucoup de gens font l'erreur d'arriver sur les événements avec trop d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils se disent, attends, pour passer 30, 60, 30 kilomètres, il faut que je fasse
un marathon avant.
Ouais, avec un sac à dos. Non, surtout pas. Le sac à dos, tu vas le mettre quelques fois sur quelques séances, et pas à 6 kilos, mais à 3 kilos, pour être sûr que les bretelles sont bien réglées, que tu n'as pas des frottements partout. Mais tu ne vas pas transformer ton dos et tes deltoïdes juste pour une compétition. Donc le premier jour, le sac, tu le sentiras dans ton dos. Le deuxième, tu le sentiras un peu moins. Et le troisième, tu l'oublieras.
C'est bizarre, mais je n'ai pas entendu jingle conseil. Parce que là, on est en plein dedans.
On va y arriver. Donc, je résume quand même. En termes de coût, si on s'y prend bien à l'avance, en anticipant son achat de billets d'avion et en s'inscrivant vite sur le site du Half donc Marathon des Sables du Pérou, on peut s'en tirer aux alentours de 2000 euros.
C'est exactement ça.
Pour schématiser.
Le but, voilà, c'est que ce soit très accessible. Donc, si tu anticipes et que tu t'inscris bien à l'avant, effectivement, pour une enveloppe de 2000 euros, tu as une semaine complète prise en charge
une aventure extraordinaire.
Ah ben, si tu veux.
Alors, attends, on va enchaîner parce que regarde, le temps passe vite. C'est passionnant. Hein, moi, je m'y vois. Ouais, là,
on peut faire un épisode 2. Si
Mais les conseils, c'est important pour courir sur le sable.
RMC.
Mehdi Bala qui passe dans sa veste en titre européen. C'est extraordinaire. Mehdi Bala, champion d'Europe.
Le conseil de Mehdi Bala.
Ah, ce sera aussi le conseil de Cyril Gauthier, du coup. Ah,
ça va être surtout le conseil de Cyril, parce que, sincèrement, quand on l'entend parler, c'est un poète, ce mec. Moi, il m'a amené au Pérou.
Moi, je pense qu'à la fin du mois, t'es avec nous. Fin novembre, tu viens.
Si tu cherches des parrains, je pense que Gilbert et moi, on est dispo.
Ah non, on discutera en antenne.
Reposer une semaine.
Est-ce que t'as déjà couru sur le sable?
Alors, j'ai couru sur le sable, effectivement. L'image que tu as donnée tout à l'heure du sable de plage, tout le monde l'a fait. Et effectivement, pour moi, c'était quelque chose de. Ouais, c'est une horreur. Alors, plus tu te rapproches de l'eau, moins c'est compliqué.
Exactement. Et surtout dans les dunes, tu te rends compte que le sable est damé. Donc, et tout de suite, quand on a du sable mou, on s'enfonce jusqu'à la cheville, on se met à marcher parce que tu te rends compte que ton efficacité, elle est très mauvaise. Alors, il y a quelques coureurs dans le monde qui tiennent du 10-12 km/h et les Marocains qui gagnent régulièrement le marathon des sables sont comme ça. Mais attention, ils font 50 kilos, ils ont des pompes qui font du 44, ils ont une impulsion énorme et ils arrivent à ne pas s'enfoncer. Mais on parle de quoi? De 10-15 mecs dans le monde. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Sur le sable dur, on court 70% du temps. Et dans les 20% les plus mous, on se met à marcher. Et donc là, c'est comme quand tu vas avec ta serviette de plage au bord de mer. Parce que là, autrement, tu peux te faire très mal et tu t'épuises. Et par 35 ou 40 degrés, tu perds tout plaisir.
Alors là, sur les 3 jours de course au Pérou, on a quel type de sol?
Alors, tu as 70 à 80% de sable dur sur lequel tu peux courir. Et chose très importante, à la différence du bitume, c'est beaucoup plus souple, donc tu n'as aucun problème de genoux, de tendinite et compagnie.
Alors moi, ce qui se passe quand je cours sur le sable, Gilbert, je sais pas si c'est pour toi, c'est pareil, j'ai du sable plein les chaussures une fois.
Ah oui, alors ça, c'est l'horreur absolue. Sauf que là, tous les coureurs sur le site du Half Marathon des Sables vont se commander une petite paire de guêtres à 10 ou 15 euros que tu couds sur la chaussure et tu n'as pas de sable.
D'accord, donc c'est même pas des chaussures spécifiques, c'est des guêtres qu'on...
Tu l'adaptes à tes chaussures. Alors la seule chose qu'on peut dire, c'est quand t'es pris en photo, t'as un peu des pieds de Donald. C'est pas très beau.
Si ça peut, ça peut empêcher que tu aies plein de sable dans les chaussures.
C'est exactement ça. C'est juste efficace.
Alors, au niveau chaussures de running, est-ce que la chaussure de running qu'on utilise au quotidien est adaptée finalement, si on met la guêtre dessus, ou alors est-ce qu'il en faut des spécifiques?
Alors, tu as des gens qui viennent du trail, qui prennent des chaussures de trail, et tu as 60% des gens qui ont des chaussures de running auxquelles ils sont habitués. Et là, je précise, surtout, pas la grande idée de changer de marque de chaussures ou de type de chaussures sous prétexte qu'on est dans le sable. Parce que ça, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux venir avec de vieilles chaussures.
On en parle souvent, effectivement. Alors, moi, l'effet crampon, je pensais qu'effectivement, les chaussures de trail étaient beaucoup plus appropriées à ce genre de surface.
Non, parce que, si tu veux, comme on a assez peu de dénivelé, le sable passe parfaitement avec des chaussures de running plus légères. Ça glisse pas. Non. Et quand tu descends des petites dunes, tu te laisses aller. C'est un jeu. Parce que là, tu es comme un gamin, tu cours dans le sable, t'en mets partout. Ça crée un moment très, très ludique.
Alors, sac à dos, donc, évidemment. J'imagine que inconcevable de courir tête nue.
Alors, si tu veux, là, c'est un vrai. Il y en a qui viennent et qui se disent on va prendre de la couleur. Alors, c'est la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir. Venez pas pour bronzer parce que vous serez déçus. Parce qu'il faut vraiment se couvrir. Il faut même ne pas hésiter à mettre des manches longues parce que le soleil, t'es quand même exposé longtemps. Donc, pas de tête nue, manches longues. Et par contre, beaucoup pour les hommes, se raser les jambes, comme les triathlètes. Mais pourquoi? Parce que si tu te mets de la crème solaire, c'est beaucoup plus simple. Parce que les poils, le soleil et la crème solaire, ça ne fait pas bon ménage.
Bon, et après, j'imagine que c'est le traditionnel au niveau textile, évidemment, léger mais efficace.
Léger, respirant. Tu ne sens pas mauvais dans le désert, tu ne te changes pas. Tu n'as pas une autre tenue de rechange dans ton sac à dos, il faut que tu sois léger. Mais vraiment, les tenues classiques qui sont parfaitement faites.
Et puis apprendre à manger aussi, à s'hydrater, ça c'est important.
Ça c'est très stratégique parce que souvent, quand tu cours avec la chaleur, tu n'as plus envie de manger. Et là, tu dois te forcer à manger comme il faut. Et surtout, tu l'as dit, à t'hydrater parce que tu bois des litres et des litres d'eau. Mais ça, nos médecins sont aussi là en permanence pour rappeler les conseils et suivre.
Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site donc, du Half Marathon des Sables du Pérou. C'est dans quelques semaines. Alors, les inscriptions pour cette année, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que
il reste encore quelques places, mais vraiment très, très peu.
Et là, on ne s'organise pas quand même à 2-3 semaines pour y aller. Qu'il peut y avoir des fous furieux.
Moi, les deux qui sont dans le studio, je pense que je vais pouvoir les inscrire, tu vois.
Oh, mais là, je ne sais pas si on va pouvoir se libérer. On va voir. Mais il y aura une édition en 2020, j'imagine.
Elles sont déjà planifiées. Fuerteventura, on vient d'ouvrir les inscriptions pour septembre 2020 aux Canaries.
Bon, merci Cyril Gauthier, merci beaucoup d'être venu dans J'aime courir. Et puis voilà, on va quitter le Pérou, Mehdi, on y était là dans le désert. Mais
terrible, on va retrouver la grisaille parisienne.
Même les meilleurs podcasts ont une fin. Allez, à la
merci
semaine prochaine.
Merci à tous les deux, ciao. RMC, J'aime courir.